Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
La panique et la peur sont souvent au rendez-vous lorsqu'un incendie se déclare dans une maison. Surpris par le feu, certaines personnes ne savent pas exactement quoi faire. Entre-temps, le feu avance rapidement et détruit tout sur son passage. Faute des secours, certaines personnes décèdent complètement calcinées. C'est des choses qui sont arrivées à Kinshasa, par exemple, à plusieurs reprises. Alors, quels sont les gestes importants à poser, les gestes de secours à poser lorsqu'un incendie se déclare quelque part dans une maison? Ça peut être dans une maison, une boutique, quelque part, dans un quartier. Alors, pour en savoir plus, nous recevons Vicky Mbouy, il est secouriste. Monsieur Vicky, rebonjour.
Bonjour.
Alors, lorsqu'un incendie se déclare dans une maison, quels sont les gestes de secours à poser à ce moment-là?
Ok. Les gestes de secours sont liés par rapport à la nature de l'incendie. Si c'est le feu est d'origine domestique, comprenez que maman est en train de préparer, c'est un feu léger. Uniquement, qu'est-ce qu'on fait? On faut seulement séparer les constituants du feu, si c'était les braises ou quoi que ce soit. Deux, s'il s'agit de feux qui sont liés par rapport, peut-être c'est une usine qui est en feu, ou quoi que ce soit. Alors, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, par rapport à l'usine ou quoi que ce soit, s'il y a déjà des dispositions particulières par rapport au fonctionnement des usines, quoi que ce soit. Ça, peu importe. Bon, maintenant, par rapport aux maisons d'habitation et bâtiments, qu'est-ce qu'il faut faire? Un, il faut identifier d'abord la source d'alimentation électrique. C'est par là qu'il faut d'abord couper si la cause est liée à l'alimentation électrique. Vous coupez d'abord le courant. Donc, vous ne pouvez pas commencer à intervenir sans toutefois couper l'alimentation de l'immeuble. Si l'accès sur la logette ou disjoncteur de l'immeuble, ce n'est pas facile, c'est peut-être là qu'a commencé le feu. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut appeler la station cabine, la cabine qui alimente le quartier.
Oui.
Vous appelez la cabine, vous donnez l'information qu'il y a l'incendie dans tel secteur, il n'y a pas moyen qu'on puisse couper. Si, au niveau de la cabine, on coupe la section qui alimente le quartier. Je ne sais pas si on se comprend bien.
Oui, oui. On appelle un agent, l'agent de la SNEL qui gère
la station qui alimente le quartier, là où les bâtiments et après le feu, il y a l'incendie.
Oui.
Voilà. On passe l'information s'il y a moyen de couper tel quartier parce qu'il y a l'incendie sur tel immeuble. Et on ne saura pas intervenir parce que le disjoncteur, peut-être la source d'alimentation n'est pas encore coupée. Au niveau de la cabine, on peut couper le quartier. À ce moment-là, vous allez accéder dans la zone où il n'y a pas de courant. Parce que la cause du feu était liée au courant.
Mm-hmm.
À ce moment-là, vous aussi qui entrez dans les sites, vous êtes aussi sécurisé. Alors là, vous pouvez intervenir par rapport aux moyens que vous pouvez disposer. Mais si la cause de l'incendie est liée par rapport au courant, il y a les dispositifs qu'on peut utiliser qui sont liés à la nature du feu. Parce que dans la classification du feu, nous avons les feux de classe A qui sont liés au feu des matières solides, les papiers, coton, paille, chiffon, bois, textile, plastique, même les immeubles. Là, ce sont les feux de classe A. Là, on peut utiliser comme moyen d'extinction l'eau en jet ou l'eau pulvérisée, mousse ou poudre. Là, tous les moyens sont bons. Alors, pour les classes B, ou les feux qui sont liés au feu de liquides inflammables ou de produits liquéfiables.
Oui.
Par exemple, essence, gasoil, pétrole, kérosène, benzine, caoutchouc, poudron, graisse, huile. Dans des cas comme ça, les moyens d'extinction, ce sont les extincteurs à mousse, à COD, les extincteurs à poudre et les gaz inertes. Et dans ces cas, il faut proscrire, il faut interdire l'utilisation de l'eau en jeu. Il faut interdire ça.
Alors, monsieur Vicky, faut-il également avoir des extincteurs à la maison?
Certainement, il faut assurer nos maisons auprès des autorités qui gèrent. Au niveau de l'hôtel des villes, il y a tout un service qui, en fait, vous achetez l'assurance pour la maison, maison boutique, quoi que ce soit. Et en cas de problème, vous êtes assuré, vous comprenez que les choses vont bien se passer. Et il est vraiment prudent que chacun puisse avoir l'extincteur dans la maison. La prévention est très importante.
Bien, on va poursuivre tout à l'heure, le temps d'accueillir des auditeurs. Esther Oubedi nous appelle des Mahagi, dans la province orientale, et Freddy est à Lubumbashi, au Katanga. Esther Oubedi, bonjour.
Bonjour, merci.
On vous écoute.
Oui. Monsieur l'expert, pouvez-vous nous donner la gamme complète, si elle existe, de la chevelure jusqu'à la plate du pied? De la tenue commode pour le sauvetage en cas de sanglier. Donc, comment s'habiller pour ne pas se faire brûler, pour ne pas manquer de l'oxygène à respirer. Donc, pour éviter que le sanglier ne se retourne contre quelqu'un qui veut sauver, par exemple, les autres pendant une sanglier. Alors, vous comprendrez que c'est pertinent. Et si jamais on peut avoir ces tenues sur les marchés, on peut toujours s'en procurer et en cas de besoin, on l'utilise facilement. Merci.
Bien, merci. Freddy de Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Freddy.
Oui, ça va. Moi, je voulais demander encore à notre invité. L'année passée, ici à Lubumbashi, on nous montrait dans les chaînes locales les personnes qui ont brûlé. C'est que moi, je demande, ces personnes-là qui étaient brûlées, on était allé les soigner, mais jusqu'à aujourd'hui, il est en bonne vie. Moi, je voulais demander à notre invité, ces personnes-là qui étaient brûlées, est-ce qu'il ne peut pas perdre d'autres sens? Il ne peut pas attraper avec d'autres anomalies? C'est ça que je voulais savoir. J'ai dit, je vous remercie.
Merci. Monsieur Vikimboui.
Merci. Monsieur Vikimboui.
Je ne sais pas, la nature, le décret de brûler. Nous avons les brûlés, premier décret, deuxième. Et c'est par rapport à la superficie de la surface brûlée qu'on peut déterminer en fait quelle sera la conclusion, la suite par rapport au traitement. Et si une brûlée est en bonne santé, il y a les anticorps en fait, et que la surface brûlée n'est pas tellement grave, c'est-à-dire brûlée au premier décret ou deuxième décret, et la zone brûlée n'est pas les zones dangereuses, si ce n'est pas au niveau des articulations, aux jonctions, soit au niveau des appareils, en fait, au niveau des sexes, tout ça, l'évolution peut être toujours prometteuse.
Alors,
souvent, par rapport à la superficie du corps, de la zone brûlée. Alors, là, il ne faut pas s'étonner si vous voyez quelqu'un qui est brûlé, que le corps a un système d'autodéfense et d'auto-régénération des tissus. Alors, si la personne est en bonne santé, s'il est bien nourri, la surface brûlée est bien entretenue, ça peut toujours se cicatriser sans problème.
Voilà.
Mais toutefois.
Et par rapport à la question d'Esther, elle dit, vous voulez intervenir, il y a un incendie qui se déclare quelque part, il faut intervenir. Bon, quelle est la tenue appropriée à porter pour ne pas aussi être victime, être pris dans les flammes?
Oui, en fait, il faut se couvrir au maximum avec beaucoup, en fait, il y a des tissus, bien sûr, il y a des tissus spéciaux, mais c'est une commande qu'on peut livrer des tissus spéciaux. Mais on se couvre au maximum avec des habits, en fait, une sorte des habits qui pèsent pour se protéger au maximum par rapport au fait. Et en fait, quand vous entrez dans l'immeuble, vous n'allez pas marcher debout, non. Parce que la surface entre le sol, le pavement, est à peu près 50 cm ou 1 mètre. C'est cette surface-là où il y a de l'oxygène à bien respirer. Donc, vous allez ramper. C'est quand vous rampez en position à ramper, vous comprenez que vous respectez cette zone-là où, en fait, il y a assez d'oxygène. Ça va vous permettre aussi de respirer. Vous mouillez un tissu ou un habit que vous allez vous protéger au niveau des narines. Ça va vous permettre de respirer un tissu mouillé ou un habit mouillé. Ça va protéger aussi de ne pas trop prendre beaucoup de CO2 pour ne pas être trop suffoqué. C'est dans ce sens-là. Donc, même si vous avez la tenue appropriée, donc, comprenez qu'il faut ramper. Vous n'allez pas marcher debout comme quelqu'un qui marche tout droit, non. Donc, vous rampez doucement, vous vous dirigez vers la zone où il y a un enfant qui est bloqué dans la chambre pour aller les sauver.
Alors, souvent, M. Vicky, souvent, qu'est-ce qui arrive à Kinshasa, par exemple, quand il y a un incendie, les gens vont chercher des seaux d'eau pour verser, pour jeter, afin d'éteindre le feu, ou du sable, on va recourir au sable. Est-ce que c'est efficace tout cela?
C'est ce que je dis, l'intervention est liée par rapport à la nature du feu. J'avais dit que s'il s'agit du courant électrique, et qu'on n'a pas coupé l'alimentation électrique dans l'appartement ou dans l'immeuble, et que les quartiers sont alimentés. Vous comprenez qu'il peut y avoir des dégâts sur place dans l'immeuble et des dégâts aussi collatéraux. Alors, si c'est l'électricité qui est alimentée dans l'immeuble, qui n'est pas coupée, vous jetez encore de l'eau. Vous risquez les courts-circuits et l'électrocution. Même vous qui allez intervenir, vous comprenez que vous êtes en danger. Donc, il faut vraiment... l'eau, c'est en fait dans d'autres sous d'autres choses, l'eau est devenue un élément archaïque dans l'intervention du feu, parce qu'il y a des systèmes qui sont adaptés par rapport à la nature du feu. J'avais parlé au début des classifications du feu classe A et classe B. Il y a aussi classe C et classe D. Dans les classes C, il y a le feu des gaz et d'origine électrique, ou des gaz comme de l'acétylène, butane, propane, néon. Et dans ces cas, vous utilisez les extincteurs à C ou D à poudre, sable ou gaz inerte. Là, vous ne pouvez pas utiliser de l'eau pour le risque d'électrocution ou de mousse pour le risque d'électrocution. Donc, c'est aussi un danger pour vous qui allez intervenir et pour ceux qui sont dans l'immeuble. Alors, c'est très dangereux. Ce n'est pas chaque feu qu'il faut utiliser de l'eau. Non, il faut adapter l'intervention par rapport à la nature du feu. Ça, c'est vraiment très important. Il y a aussi les classes B du feu comme les feux de métaux spéciaux, comme l'aluminium, sodium, magnésium, potassium. Et là, c'est quand on utilise le sable sec ou du ciment. Et les procédés d'extinction pour les cas spéciaux exigent pour chaque cas une étude particulière. En fait, par rapport à notre pays, il y a aussi beaucoup de recommandations qu'il faut aussi faire pour qu'on puisse aussi améliorer. Puisque ce n'est pas chaque fait qu'il faut toujours amener de l'eau. Non, il faut être prudent. C'est certain.
Voilà. Il faut être prudent. Alors, comme geste des secours, vous avez dit la première chose, c'est d'identifier la source d'alimentation électrique. Appeler l'agent de la SNEL qui gère la cabine qui alimente les secteurs afin de couper.
Si vous êtes en mesure de couper les disjoncteurs, sur place où la logette c'est accessible, vous coupez les courants dans l'immeuble et là, au CK, vous pouvez intervenir. Vous-même, vous êtes en sécurité. Et ceux que vous allez sauver dans l'immeuble sont en sécurité. Alors, si c'est l'endroit même où vous devez couper les courants, c'est là qu'il y a le feu. C'est difficile, vous ne pouvez pas encore aller toucher là-bas. Dans ce cas, faites recours aux agents SNEL, ceux qui gèrent les cabines qui alimentent les quartiers dans lesquels l'immeuble est en feu.
Oui.
À ce moment-là, si vous faites le courant, vous y accédez, vous aussi, vous êtes en sécurité.
Oui, le problème, c'est qu'il y a souvent la panique et le feu avance rapidement. Le temps d'aller voir l'agent de la SNEL et revenir, peut-être qu'il y aura déjà des dégâts.
Certainement. Vous allez intervenir sans pouvoir bien cadrer les éléments de prévention au début. Vous-même qui avez des soucis de sauver, vous risquez d'être des victimes additionnelles. C'est ça le problème. Donc, et la communication doit circuler. Donc, vous identifiez la source du feu. Vous comprenez que non, le feu est lié par rapport au courant électrique. S'il faut couper les disjoncteurs, vous allez dans la logique, vous coupez les disjoncteurs qui alimentent l'immeuble. À ce moment-là, vous pouvez accéder facilement dans l'immeuble. En rampant, vous pouvez chercher un tissu ou un morceau, vous mouillez dans l'eau, vous protégez au niveau du nez pour respirer dans ce tissu, vous rampez pour sauver ceux qui sont dans l'immeuble. Là, c'est facile. Vous allez les évacuer à une distance. Et aussi, il ne faut pas les poser à terre pour éviter une électrocution ou bien, vous voyez, qu'avec la terre conduit le courant électrique. Il faut les évacuer à distance. Mais si dans les cas où c'est impossible de couper les disjoncteurs de l'immeuble, à ce moment-là, faites appel aux agents SNEL qui gèrent les cabines qui alimentent l'immeuble dans les quartiers. À ce moment-là, on coupe le courant pour les quartiers. Et aussi, l'immeuble n'est pas alimenté en courant électrique. Là, vous pouvez intervenir avec toute sécurité. Et pour vous-même, et pour ceux qui sont dans l'immeuble. Oui. Dans ce cas, vous évacuez ceux qui sont vivants et ceux qui sont brûlés, vous les évacuez. Et vous allez suivre le feu pour éteindre les feux pièce par pièce.
Bien, nous et avons vous... deux autres auditeurs en ligne. Jean d'Ambauche nous appelle des Colloisie. Cédric Molongo est également là, à Colloisie. Jean, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. J'ai une préoccupation, hein, parce que je viens d'écouter l'invité parler de l'inspecteur. Je voulais savoir, est-ce que cet outil peut arriver à stopper n'importe quel incendie? Parce que si chez nous, à Colloisie, on a vécu un incendie à la sous-station qui distribue l'électricité dans presque sur toute l'étendue de la ville de Colloisie. Vu la capacité du feu, je suis un peu pessimiste et je voulais me rassurer si réellement l'inspecteur peut arriver à stopper n'importe quelle sorte de feu.
Alors, comment est-ce que vous avez pu maîtriser le feu qui s'était déclaré à la cabine à Colloisie?
Non, c'est après tous les dégâts qu'on a connus, puisqu'on a fait même 3 jours sans électricité ici chez nous à Colloisie. Et c'est par après que qu'on a envoyé les camions pour éteindre le feu. Donc c'est après les dégâts.
Après les dégâts. Bien. Merci Jean. Cédric Molongo, bonjour. Cédric Molongo, bonjour. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
En fait, j'allais aussi demander à notre invité de m'expliquer comment...
Cédric, veuillez réduire le volume de votre radio et vous allez suivre à partir du téléphone, sinon il y a un effet retour à l'antenne. Merci de le faire, vous pouvez poser votre question.
En fait, j'allais aussi poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut garder les carburants pour que ça ne puisse pas se déclarer en feu.
Alors, comment garder les carburants à la maison pour éviter les incendies?
À la maison, oui, dans un endroit où il y a beaucoup de circulation, peut-être pas dans des stations là où on vend des carburants, pour que ça ne puisse pas se déclarer en feu.
Merci. Monsieur Vikimboui.
Oui, pour le premier intervenant, il dit que est-ce que l'extincteur peut éteindre n'importe quelle nature de feu? Non. Il y a le petit feu qu'on peut utiliser l'extincteur à COD qui fait baisser la température jusqu'à moins 79 degrés Celsius, c'est-à-dire à peu près moins 79 pour nous, les Congolais d'en face, de l'autre côté. En fait, ce n'est pas à chaque feu qu'il faut utiliser l'extincteur. C'est ce que je disais. Et en plus, il dit l'extincteur pour quelle nature de feu? Non. Un petit feu, vous pouvez utiliser l'extincteur, c'est pas un problème. Mais vous voyez que le feu est très important, avec de grandes intensités. Comme ce qu'il parle, le fait d'origine électrique des cabines, là, ce n'est pas seulement un extincteur qui va éteindre toute une cabine qui est en feu. Vous voyez qu'il faut augmenter les moyens d'extinction de feu. Et on y associe aussi les extincteurs à poudre, soit c'est à COD, ou c'est ici. Vous verrez même là, à côté, si ce sont des stations d'essence, vous verrez qu'il y a des sacs à sable ou des bacs à sable. Dans chaque station d'essence, vous allez trouver ça. Donc, ce sont les moyens que vous pouvez. Il y a les extincteurs à côté et les bacs à sable. Donc, en même temps, on peut utiliser les extincteurs, en même temps, on peut associer avec les sables pour avoir les résultats escomptés dans un bref délai. Mais aussi, il y a aussi des gaz inertes qu'on peut aussi utiliser. Vous voyez que ce sont un peu les moyens beaucoup plus professionnels. Alors qu'il faut essayer d'en augmenter l'intensité. Donc, c'est du moins ça. Pour le deuxième intervenant, M. Cédric Molongo, il dit, mais comment pour garder les carburants pour éviter les incendies, tout ça. Bon, si ce sont les gens qui vendent les carburants, c'est des gens qui ne sont pas professionnels. Vous voyez que les stations d'essence, ils répondent aux normes, aux exigences avant de vendre les carburants. Vous prenez les carburants, vous mettez dans un bidon, vous mettez dans une maison qui a une hauteur de 5, 6, en fait, une hauteur de hauteur de 2, 3 mètres. Maison en tôle, il fait très chaud. Et en fait, les bidons d'essence, avec la chaleur, vous comprenez que vous êtes toujours les sources de feu. Parce que les matières que vous protégez, ce sont des matières flammables. Vous prenez le feu facilement quand la température augmente. Alors, vous voyez que vous n'êtes pas, vous n'avez pas tous les moyens qu'il faut pour garder ces matières dans de bonnes conditions.
Mmh.
Alors, il faut laisser chacun faire son travail. Laisser ceux qui font les transports de carburant avec les moyens de véhicules adaptés et qui les vendent avec les matériels aussi adaptés.
Voilà.
Là, ils ont des extincteurs
mmh.
et tous les moyens s'y placent dans des stations. Vous verrez ça.
Voilà.
Si vous êtes personnel privé,
donc
vous n'avez pas les moyens qu'il faut, alors
voilà.
Il ne faut pas tenter l'aventure parce que vous serez toujours exposé aux incendies.
Bien. Quels sont les gestes de secours en cas d'incendie? Vicky Mboui, secouriste, c'est l'invité d'Okapi Service. Rachel Ndjunjou nous appelle d'Isiro. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081 890 63 94.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiookapi.net.
Quels sont les gestes de secours en cas d'incendie? Rachel Ndjunjou, vous êtes à Isiro, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voulais demander un cas d'invité. Si, par exemple, un agent de secours, il s'est fait brûler à l'intérieur de la maison parce qu'il voulait sauver un enfant précieux. Est-ce que c'est ça? Les responsables de cette maison qui vont dédommager la famille de la victime?
Oui, vous dites, hein, vous donnez un témoignage, vous dites qu'un agent de quel service?
De service de sécurité, donc de secours.
C'est un fait qui s'est déroulé à Isiro dernièrement.
Ah oui, il s'est fait brûler à l'intérieur de la maison. Et maintenant, je voulais savoir si ce sont les responsables de cette maison qui vont dédommager la famille de la victime.
Voilà, il était brûlé, il est décédé après ou pas?
Oui, il est décédé après.
Et l'enfant qu'il voulait sauver?
L'enfant est sorti, mais lui, il est décédé à l'intérieur.
Bien. Alors, donc, vous voulez savoir qui doit les dédommager? On doit les dédommager ou pas, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ben, voilà, Monsieur Vicky, doit-on payer des dommages à la famille ou qu'est-ce qui est prévu hein, dans ce cas-là?
Ok, je remercie beaucoup, Madame Rachel de la province orientale à Isiro. Ok, en fait, chaque métier a des conséquences. Vous voyez qu'il n'y a pas quelque chose de prévu. Il est venu avec les bonnes intentions d'aider. Vous comprenez que les conséquences ont fait que, par inadvertance, il s'est brûlé et il a sauvé la victime. Ce sont des cas qui sont rares, mais notre État sait comment diriger les choses par rapport aux articles, tout ça, les gens qui sont plus spécialisé que moi pour les codes en fait, par rapport au pays.
Mmh.
En fait, pour ce cas, c'est l'État qui doit trancher s'il y a des exigences par rapport au décès par celui qui est venu sauver et qui a eu en fait, par inadvertance, il est parvenu à mourir. Ce sont les conséquences. Chaque métier a ses conséquences.
Mmh.
Vous comprenez aussi que cela aussi peut arriver.
Alors là, il revient.
Une entente à l'amiable.
Oui. Ouais, vous l'avez dit, il revient aux hommes des droits de pouvoir expliquer qu'est-ce qui sera fait à ce moment-là. Alors, nous avons quelques questions des auditeurs. Certains nous ont écrit sur la page Facebook, d'autres nous ont envoyé des SMS. Pythagore Nzanzu de Goma, d'Engoma FMTV, à Beni. Il nous a écrit sur la page Facebook de l'émission. Il dit ceci, pousser des cris, est-ce un moyen, un geste de secours lorsqu'il y a un feu qui se déclare? Bon, on crie pour alerter peut-être les gens qui sont à l'intérieur ou les voisins. Est-ce que c'est parmi les gestes de secours?
Bon, l'information fait partie des gestes de secours. En fait, nous, présentement, c'est le téléphone, on peut appeler, mais vous comprenez que dans les temps traditionnels, on pouvait appeler quelqu'un, crier, ce n'est pas interdit. Donc, c'est une façon d'alerter une grande population qui pouvait aussi secourir ou de venir en aide. Ce n'est pas interdit. C'est le moyen que l'ami a trouvé, qu'il voit l'incident, mais son moyen pour alerter les autres, c'est de crier.
Mmh.
Quand une grande population est informée, l'information peut circuler et l'aide peut venir aussi à nos gens.
Bien. Francis Senda nous appelle des Kananga. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Francis.
Oui. Je salue dans un premier temps l'invité qui est avec nous dans le studio de la radio de la ville et vous, le journaliste. Ce que je vais juste poser comme préoccupation, il y a quelqu'un qui a peut-être en train de vendre un carburant, et il y a quelqu'un, un enfant qui passe par exemple avec le peu, et il y a le ça brille le tout là. Mais je vais demander savoir l'enfant est brillé et aussi le bien qui se trouve là. Je vais juste savoir qui a commis une infraction, bien à qui on va aller demander ce qui s'est brûlé là.
Oui, Francis, on n'est pas dans les... Ça, ce sont des aspects juridiques. Nous parlons des gestes de secours à poser lorsqu'il y a, un incendie, il y a un danger. Est-ce que vous avez des questions dans ce sens, qui vont dans ce sens-là?
Ah, merci.
Merci d'avoir appelé. Alors, nous avons d'autres SMS des auditeurs. Hervé Chalice de Kananga. Est-ce qu'on peut refroidir directement quelqu'un qui sort d'un incendie? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
Ok. Refroidir subitement. Mais avec quoi? Vous ne voulez pas mettre des matières ou des liquides qui sont sales, qui risquent de créer une infection généralisée si la victime, au risque que ça peut créer une septicémie et la personne peut mourir de coma ou une infection grave ou en fait méningite. Donc il faut être prudent, il faut être limité. Sauver, oui. Dès que vous l'avez dégagé de l'endroit où il y avait du feu, vous l'envoyez à l'hôpital. Il y a les spécialistes à l'hôpital qui savent quoi faire, quelle zone brûler et comment se comporter. Donc, il faut être un peu réservé et prudent.
Faut-il, par exemple, verser un seau d'eau sur la personne en question?
Un seau d'eau, peut-être les habits sont mouillés, ils sont en feu. Voilà, les habits sont en feu, bien sûr, vous pouvez jeter de l'eau pour éteindre le feu. Une fois que vous avez éteint le feu, c'est fini, vous amenez la personne à l'hôpital, vous signifiez ce que vous avez fait, le docteur est spécialiste sur place, il saura quoi faire. Mais ce n'est pas que non, vous prenez n'importe quelle matière ou vous urinez sur la plaie brûlée immédiatement ou vous mettez les poils des moutons ou des chats comme les autres ont l'habitude de faire. Ça, c'est interdit. Il ne faut pas le faire.
Ce sont des pratiques déconseillées.
Certainement.
Voilà. Jérôme, depuis Goma, il dit ici à Goma, il y a beaucoup de maisons en bois. Y a-t-il pas des dispositions spéciales?
Maisons en bois, disposition spéciale. Est-ce qu'une maison en bois n'a pas de problème? Est-ce qu'il a peur? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce sont les maisons en bois où on vend des carburants, pas les vendre en bilan? Là, ça va poser des problèmes parce que nous avons dit que il faut que le travail là soit fait par ceux qui sont habilités à le faire légalement. Une maison en bois n'a pas de problème. On peut habiter dans une petite maison en bois et il n'y aura pas de problème.
Bon, peut-être qu'il a, il craint un peu. D'après lui, les maisons en bois peuvent facilement prendre feu. C'est peut-être dans ce sens-là.
Mais dans ce sens-là, si ce sont les moyens sont limités, on ne peut pas interdire les gens de passer construire des maisons en bois, mais il faut être prudent par rapport à ce qu'on utilise comme le feu. Mais le feu domestique pour préparer tout ça, ça ne peut pas. Il faut être prudent pour éviter les incendies.
Voilà, Dominique, on va terminer avec la question de Dominique qui dit est-ce qu'un incendie peut se déclarer et atteindre une altitude de 95 mètres d'hauteur?
Certainement. Je donne un exemple qui n'est pas pour notre pays. À l'époque, quand l'Irak était attaqué, Saddam avait jeté du carburant sur les rivières et il avait mis le feu. C'était le feu qui avait beaucoup duré de mois et de mois. Et pour éteindre ce feu, qu'est-ce qu'on avait fait? Les Américains, ils ont utilisé les ballons d'air qu'ils ont remplis avec des gaz inertes. Ils ont amené les ballons d'air avec les hélicos, ils ont jeté sur le feu et quand les ballons explosaient, les gaz inertes éteignaient le feu. Donc, il y a des feux qui peuvent prendre des jours et des mois pour éteindre, certainement. Bon, c'est aussi lié par rapport à la nature du feu, comme on avait dit à l'introduction.
Voilà, M. Vicky, on retient que lorsqu'un incendie se déclare, il faut identifier la source d'alimentation électrique, appeler l'agent de la SNEL qui gère la cabine, et pourquoi pas les sapeurs-pompiers aussi, et peut-être leur passer aussi rapidement un coup de fil pour venir intervenir, avoir un extincteur, et puis quand vous entrez dans la maison, il faut ramper et avoir un tissu mouillé que vous allez placer au niveau du nez pour bien respirer. Voilà. Oui. Voilà, ce sont là quelques gestes.
Les grandes lignes.
Voilà, les grandes lignes. Voilà, il y en a plusieurs, certainement, peut-être qu'on aura.
Certainement. Mais les 30 minutes, on ne peut pas épuiser toute la matière.
Bien sûr. Merci, M. Vicky Mbouyi, secouriste. À la prochaine.
Merci.